création on air. Creation on air.
Bonsoir, information historique. Il convient tout d'abord de déchirer le voile du secret qui entoure la Biélorussie. Chacun connaît Tchernobyl, mais seulement en rapport avec l'Ukraine et la Russie. Russie blanche, telle est la traduction du nom Biélorussie. Narodnaya Gazeta, 27 avril 1996. Il n'y a aucune centrale nucléaire en Biélorussie. Sur le territoire de l'ancienne URSS, les centrales qui se trouvent à proximité des frontières biélorusses sont équipées de réacteurs de type RBMK, réacteurs au graphite à refroidissement par eau bouillante, de conception ancienne, qui constituaient l'essentiel du parc nucléaire civil de l'ex-URSS et pouvaient produire du plutonium militaire. Note des traducteurs, Galia Ackermann et Pierre Lorrain. Au nord, celle d'Ignalina, à l'est, celle de Smolensk, au sud, celle de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, à 1h23, une série d'explosions détruisit le réacteur et le bâtiment de la quatrième tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cet accident est devenu la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Pour la petite Biélorussie, de 10 millions d'habitants, il s'agissait d'un désastre à l'échelle nationale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la terre biélorusse, les nazis avaient détruit 619 villages et exterminé leur population. À la suite de Tchernobyl, le pays en perdit 485. 70 d'entre eux sont enterrés pour toujours. La guerre tua un Biélorusse sur quatre. Aujourd'hui, un sur cinq vit dans une région contaminée. Cela concerne 2,1 millions de personnes, dont 700 000 enfants. Les radiations constituent la principale source de déficit démographique. Dans les régions de Gomel et de Moguilev, qui ont le plus souffert de la tragédie, la mortalité est supérieure de 20% à la natalité. Au moment de la catastrophe, parmi les 50 millions de radionucléides propulsés dans l'atmosphère, 70% retombèrent sur le sol de la Biélorussie. En ce qui concerne le césium-137, 23% de son territoire sont contaminés par une quantité de nucléides radioactifs égale ou supérieure à 37 milliards de becquerels par kilomètre carré. Plus loin. À la suite de l'influence permanente de petites doses d'irradiation, le nombre de personnes atteintes en Biélorussie de cancer, d'arriération mentale, de maladies nerveuses et psychiques, ainsi que de mutations génétiques, s'accroît chaque année. Plus loin. Le quatrième réacteur, nom de code Abri, conserve toujours dans son ventre gainé de plomb et de béton armé près de 20 tonnes de combustible nucléaire. Ce qu'il advient aujourd'hui de cette matière, nul ne le sait. Le sarcophage fut bâti à la hâte et il s'agit d'une construction unique dont les ingénieurs de Peter, Saint-Pétersbourg, qui l'ont conçu, peuvent probablement se montrer fiers. Ensuite, Svetlana Alexeyevitch écrit « Trois années durant, j'ai voyagé et questionné des hommes et des femmes de générations, de destins, de tempéraments différents. Tchernobyl est leur monde. Il empoisonne tout autour d'eux, la terre, l'air, l'eau, mais aussi tout en eux. La conscience, le temps, la vie intérieure. Faire que ce que plusieurs racontent devienne l'histoire, en voyageant, en cédant la parole à ces gens, j'ai souvent eu l'impression de noter le futur, notre futur. » Atelier de création radiophonique, ACR, par Christophe Ruetsch, Marie-Laure Ciboulet, rediffusion du 8 mai 2011, Atomic Radio 137.
Mai 2008, 19h. Ligne haute tension, zone contaminée. Latitude 51 degrés 9 minutes 55 secondes nord. Longitude 29 degrés 31 minutes 35 secondes est. Réacteur numéro 4, 47 km.
Les éléments radioactifs sont des éléments instables, donc ils se décomposent en éléments plus simples dans le temps, jusqu'à devenir des éléments stables. Et à chaque fois qu'ils perdent une fraction de leur matière, ça s'accompagne d'une émission d'énergie, d'un rayonnement.
13 mai 2008, 17h. Forêt de Routnia Osojnia, zone contaminée. Latitude, 51 degrés 9 minutes 31 secondes nord. Longitude, 29 degrés 21 minutes 7 secondes est. Réacteur numéro 4, 58 km.
Le temps qu'ils mettent à se stabiliser dépend du corps qui est en jeu. Certains corps se stabilisent très très vite, genre une fraction de seconde. Et certains mettent des durées qui nous dépassent largement. Le plutonium, par exemple, c'est de l'ordre de 240 millions.
J'enveloppe mes chaussures dans des poches plastiques maintenues par du ruban adhésif. Il faut se protéger, je n'ai pas de bottes. Le danger ne provient pas ici directement de l'exposition à la radiation. Le temps d'exposition est trop court, mais plutôt des matières radioactives que l'on pourrait ingérer. Ne rien poser sur le sol, ne pas toucher, ne pas s'asseoir, guetter le vent qui soulève la poussière, rester concentré.
Alors ici, le principal polluant, c'est du césium-137. Alors les physiciens, ils comptent pas en durée de vie, ils comptent en demi-durée de vie. La demi-durée de vie pour un corps radioactif, c'est le temps qu'il met à perdre la moitié de son activité. Ouais. Donc quand on parle de... pour le césium, sa demi-durée de vie, c'est 30 ans. C'est-à-dire qu'en 30 ans, il a perdu la moitié de son activité. De moitié en moitié, il faut compter à peu près 10 cycles pour que ça disparaisse. Donc en gros, 300 ans quoi, pour lui.
Masque sur le visage, dosimètre à la main. Nous pénétrons pour la première fois dans la zone par la forêt de Routnia Osojnia. En apparence, elle ressemble à une autre.
Mai 2008, 18h. Routnia Osojnia, zone contaminée. Latitude 51 degrés 9 minutes 13 secondes nord. Longitude 29 degrés 20 minutes 38 secondes est. Réacteur numéro 4, 59 km. Arrivé dans le village abandonné de Routnia Osojnia. Des maisons en ruine, la végétation explose. Les oiseaux sont plus rares que dans la forêt. Coïncidence. Sur le chemin du retour, il y avait une biche.
Volodarka, 13 mai, 7h. Quand je pense à l'épaisseur qu'il faut traverser pour arriver jusque-là, 40 km. La route de Poliské. La bifurcation et sa route est tressie, la plaine. Chevtchenkovo, à l'orée de la tâche. Les dosimètres sonnent 10 minutes. La rivière. À nouveau la forêt. Les arbres étreignent la route. Et le village, dans son espèce de surdité à notre approche. L'absence de réaction, de réflexe. De jour au soleil. Il est à peu près facile de déambuler. Le soleil stabilise la zone. La rivière est à l'extrémité de l'an passé. Nous l'avons franchie, en camion. Espèce de pilule. À traverser, par ces routes forestières, on finit par émerger. Comme une aiguille traverserait un ballon. On atteint la mince pellicule du checkpoint. La différence de réalité nous expulse. Le soldat doit-il vérifier que nous ne sommes pas des fantômes? La route est le dernier canal humain, un fil d'huile sur l'eau, incompatible. Nous déplace, nous ramène, nous garde au chaud, ramille minime de l'arbre humain. Dans quelques dizaines d'années, les arbres auront levé cette croûte, pénétrer la zone sera moins aisé. La distance augmentera. Le village de Malenki-Minki se sera enfoncé. L'atteindre coûtera des expéditions. À moins qu'entre-temps, la zone n'ait été vendue. Reprise.
14 mai 2008, 10h. Ivan Kif. Latitude, 50 degrés 56 minutes 11 secondes nord. Longitude, 29 degrés 54 minutes 24 secondes est. Réacteur numéro 4, 52 km. J'achète des bottes bleu marine sur le petit marché pour me protéger les pieds de la terre empoisonnée.
Volodarka, 15 mai, 10h18. La route nous injecte à 50 km/h dans le tissu cicatriciel de Chichelovka, un plat de plaine post-glaciaire, idéal, tableau d'une ex-colonie.
Les habitants ne sont pas loin.
Quand on ressort, la pression artérielle est contraire.
Nous avons
20 km de mou.
Arpenter la lune après le départ des astronautes. Quelquefois des intrus, quelquefois transparents.
On émerge à l'étang de
Shevchenkovo,
notre sas.
Quelquefois capteur de pression, tout le ciel sur la plaine m'appuie là. Dans les largesses d'herbe, avec un masque en coton. J'ai honte. Que crains-tu d'attraper ici? Un grain? Les sangliers labourent. Les oiseaux font un léger lien.
traverse les maisons abandonnées lentement. Ambiance étrange. La végétation occupe tous les espaces. Le calme, les ruines, c'est très beau. Je m'approche d'une maison. Quelque chose me bloque. Coup d'œil prudent à travers les fenêtres. Entre deux maisons qui disparaissent dans les forêts, j'entends un craquement dans le casque. Je sursaute. Tout peut surgir ici. Le vent fait craquer le bois de la maison. Un bout de métal grince. Ce sont les seuls éléments sonores d'origine humaine ici, à part nous. Sur le chemin qui me semble interminable. J'enregistre les oiseaux, le vent, l'absence d'humains. Pas de dosimètre, pas de bip, pas de connaissance du taux de radiation, parfois cela m'inquiète. J'avance toujours. J'ai envie d'uriner, mais ici je me retiens. J'arrive à ce que je pense être l'extrémité du village. Un étang magnifique, c'est la fin de l'après-midi. Chemin qui continue devant moi. Homogène, s'effrite, des plaques marron m'inquiètent. Sous le masque qui m'étouffe, le charme s'arrête, j'atteins une limite. Je suis loin, trop loin de tout. Je n'ai pas encore vraiment peur, mais je ne peux pas rester là non plus. D'un pas rapide.
À cet endroit, qui n'est pas délimité par un bord, on entre ici par une route rectiligne étroite taillée dans une grande densité de sapins. Les dizaines de siècles de notre arrivée au pouvoir ont filé avec l'eau du bain. À cet endroit, j'ai peur, ou bien je zippe d'un coup la fermeture éclair du conquérant et en avant à nouveau, il faut gagner du terrain sur l'innommable. À cet endroit. À cet endroit, s'il comprend, les concepts n'ont pas encore eu gain de cause. À moins d'être transparent, le moindre rhombe d'insectes, le moindre vomissement, soudain te solidifie, te bloque le sternum, te tire un cri. Ici par une route rectiligne étroite taillée dans une grande densité de sapins. Les dizaines de siècles de notre arrivée au pouvoir ont filé avec l'eau du bain. À cet endroit, j'ai peur, ou bien je zippe d'un coup la fermeture éclair du conquérant et en avant, à nouveau, il faut gagner du terrain sur l'innommable. À cet endroit, si tu comprends, les concepts n'ont pas encore eu gain de cause, à moins d'être transparent, le moindre rhombe d'insecte, le moindre vrombissement, soudain te solidifie, te bloque le sternum, te tire un cri.
Emmener dans la maison familiale. dans le Kwiatkowski.
C'est un peu loin, mais oui.
Mange un peu. Je t'amène sur les marges.
Mais il n'y a rien à voir.
Le village est situé au bord de la grande route qui va vers Poliské. Costa, qui vécut ici avant l'accident, est notre guide occasionnel. En descendant du camion, nous mettons nos bottes. Costa, lui, n'a pas d'équipement spécifique. Aucun de nous ne mettra de masque aujourd'hui. Nous cheminons sur la rue centrale du village, avenue Lénine. Je suis le petit groupe, perche à la main, casque sur les oreilles. Il fait très beau, c'est comme une promenade. Au début, il n'est question que de radioactivité. Costa paraît plutôt détaché. Il ne retrouve plus sa maison dans la végétation.
Тут, понимаешь, десь воно з одної сторони воно впало облако. Воно як же цей вітер пішов, воно в одному місці впало, от може на цій вулиці. А там на трасі може чисто бути. Угу. Ну, я чисто, більш-менш чисто.
Le nuage est tombé peut-être comme ici. C'est pas dans la rue, dans la route. Mais dans les arbres, dans
sur la route, ça a été lavé.
Воно місці може воно це впало.
Quand on mesure sur la route, il y a peu de radiation parce que ça a été lavé par la pluie au fil des années.
Mesure à différents endroits.
Мили ж дезінфекцію робили, мили ж.
Ça la repousse sur les côtés.
C'est combien
là? J'étais dans le trou, il était à 4,83.
9,28.
Hein?
9.
9.
9,2, 9,3.
Problème.
L'école, avec ses gigantesques sapins qui obstruent l'entrée et ses murs de briques en ruine. Costa nous explique qu'elles font l'objet de convoitises. Le terrain de jeu où il jouait au foot est maintenant une forêt.
Il n'y avait pas beaucoup d'élèves, environ 200.
J'enregistre seul sous un grand tilleul les abeilles et insectes. Quand je l'ai rejoint, Costa a retrouvé les restes de sa maison, 41 avenue Lénine. Il est ému. Les oiseaux chantent.
Impossible de marcher comme ailleurs. S'asseoir sur le parapet réclame d'y réfléchir un instant. Sourire ici témoigne d'un progrès personnel, d'un affaiblissement du seuil, d'un lâcher de bulle. Nous ne pesons rien. Le peu d'effet de notre propre présence solitaire, aussi complexe qu'insignifiante.
22 mai. Le voyage me lâche lentement. Je réintègre mon monde, ses joies, ses tensions. Envie d'aller me coucher dans l'herbe et de sentir la terre chaude contre ma peau. 24 mai. Cauchemar cette nuit. Impression d'être bombardé de radiation de l'intérieur. J'étais dans la zone. Poussière. Prendre rapidement rendez-vous pour l'anthropogammamétrie. 28 mai. J'ai achevé la supplication. Visionner l'œil humide, la bataille de Tchernobyl. Des centaines de milliers d'hommes, les liquidateurs sacrifiés pour nous. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Je le savais, et désormais ce n'est plus pareil. 10 juin. Départ pour Paris, il faut finir le voyage. Demain, anthropogammamétrie pour vérifier mon taux de césium-137 à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Volodarka, 10 mai, 11h32. Sergueï se cherche une femme française pour remplacer la sienne, partie. Elle était saoule un jour, dit-il. D'abord, il veut m'en parler seul à seul. Seul à seul, c'est-à-dire avec l'interprète. D'accord? Et puis, se décide, malgré les autres. Pascal, les Ukrainiennes sont trop grosses. Mange la saucisse entière. Il imite sa voisine, une rustre, dit-il. Quand on lui demande ce qui pourrait décider sa française à venir jusqu'ici, la question lui paraît saugrenue. Elle planterait les patates? En attendant qu'il rentre, il conduit des camions, si je comprends bien. Je lui propose d'enregistrer sa demande et de la diffuser sur Internet. Qui sait, la vision sublime que j'offre de cette banlieue magnétique déciderait peut-être une audacieuse fatiguée de la vie moderne. Et puis, Sergueï a le regard transparent. Mais non, 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 Internet est une mauvaise affaire. Bon. Pendant ce temps, Yuri se marre.
15 mai 2008, 16h. Ligne haute tension, zone contaminée. Latitude, 51 degrés 9 minutes.
15 mai 2008, 17h.
Longitude,
usine vapeur de Bobert, zone contaminée.
Minutes, 1 seconde est.
Réacteur numéro 4, 46 km. 50 personnes travaillaient ici. Le lieu me saisit par sa beauté. Des bribes de bâtiments en ruine, murs, encadrements de portes, frontons, émergent d'une végétation euphorique. Lumière rasante du couchant. Ma perception du temps s'altère. Où suis-je? Dans une forêt primitive. Sur un site archéologique grandiose. Ici, les vestiges n'ont rien d'exotique. Ces fragments d'architecture, cette végétation sont les mêmes qu'à la maison. Où suis-je exactement dans le passé, le futur? Je suis happé par le décalage. Et toujours ce calme.
C'est pénétrer dans un espace-temps, dans un bloc de gelée spatio-temporel. La matière de Tchernobyl. Il y a un point sur la carte, la centrale. Il y a un nom sur la carte, la ville éponyme. Il y a un fantôme sur la carte, Pripyat la morte. Et pour relier ces amers, la banlieue floue, mi-libre, mi-close, étalée comme
В сторону станции запрещено снимать.
On peut descendre.
13 mai 2008, 12h. Passerelle aussi lure, Tchernobyl, zone contaminée. Latitude, 51 degrés 23 minutes 17 secondes nord. Longitude, 30 degrés 6 minutes 45 secondes est. Réacteur numéro 4, 1 km. Arrêt près d'une passerelle métallique pour voir des silures géants dans le canal. L'eau grouille de ces poissons-chats. Il y en a des petits, mais d'autres de la taille d'un requin. Ils vivent dans l'eau du bassin artificiel qui sert au refroidissement de la centrale. Les employés qui traversent la passerelle leur jettent du pain. C'est le spectacle. Les dosimètres butent légèrement. Nous sommes en dessous d'un microsievert.
C'est quoi ?
Quelque part derrière nous, le monstre. Réacteur numéro 4. 355 mètres. Le camion s'arrête près du monument érigé en 2006 pour les 20 ans de la catastrophe. Devant moi, le sarcophage de béton sous lequel repose le cœur du réacteur. Je suis au cœur du paradoxe. Chercher les shops dans le camion. Le chauffeur et le guide s'allument à la vodka, radio à fond. J'enregistre la rumeur du monstre un long moment, tout entier absorbé par l'écoute. Les pipes des dosimètres se mélangent au son continu. Quelques personnes passent à proximité, d'un pas nonchalant.
Un militien sort de la maison phare, un téléfilm clignote derrière une vitre.
nous sommes chacun d'un côté. Par signe et mes trois mots, je demande s'il m'interdit d'entrer dans la zone. Il me montre que j'en reviens.
Chacun déambule dans son coin avec son appareil photo. Je m'approche des bâtiments sans crainte, complètement happé par la vision.
17 mai 2008, 10h. Volodarka.
J'arrive par hasard sur une vaste esplanade, le parc d'attractions de Pripyat.
Latitude, 51 degrés 4 minutes.
En face de moi, une grande roue rouillée avec ses nacelles jaunes canaries.
Longitude, 29 degrés 41 minutes 49 secondes est.
Des voitures tamponneuses aux couleurs jadis criardes.
Réacteur numéro 4, 44 km.
Trelles de métal rouillées. Lambeaux de toile. Le silence.
J'ai lu le livre d'Igor Kostine hier soir dans le lit. J'ai réalisé brutalement où j'étais aujourd'hui.
Croisé touriste suédois en belle basket blanche, se prenant en photo devant le dosimètre, le poussant l'air au pied de la grande roue.
La peur dans le lit d'être sale, contaminé.
Des masques à gaz sur le sol. Dosimètre autour de 5 microsieverts.
Je ne pouvais plus bouger, même plus me toucher les cheveux. Me laver maintenant, changer de vêtements, virer l'invisible.
Une heure d'hallucination totale et nous repartons.
J'ai frotté dur avec le gant. La touche des liquidateurs qui se frottait jusqu'au sang.
Moderne en guise d'encouragement.
Elle sonne les heures en imitant les cloches de Tchernobyl. Il touchera désormais une pension mensuelle de 524 hryvnia, environ 67 euros. Viera le raconte. Pas d'homme à la maison. S'en inquiète. Le voit venir par le milieu de la route. En pleurs. L'horloge dans les bras.
19 mai 2008, 12h30. Métro Grand Boulevard, Paris. Latitude, 48 degrés 52 minutes 17 secondes nord. Longitude, 2 degrés 20 minutes 34 secondes est. Réacteur numéro 4, 1990 km. Matinée dans le métro pour rapporter le micro. Les trajets passent vite. J'ai la tête qui déborde d'images, de pensées. Émotion à fleur de peau. Je mesure par le décalage où j'étais. Des flashs brutaux sous forme d'images où je vois les rues devenir un instant comme à Pripyat, fantôme. Les matières invisibles que je perçois dans le métro, l'air, les atomes qui sortent des bouches d'aération, le vent. L'encombrement insensé de l'espace visuel pour un simple rouge à lèvres. Que fait l'homme de son énergie ? Remplir du vide. n'a rien à faire là.
Rituel, la longue ligne droite chaotique dans les sapins qui se resserrent,
Le bip des dosimètres aux mêmes endroits. Le silence dans le camion qui s'enfonce. L'espace acoustique dans sa profondeur comme un breuvage que je savoure. Le craquement des lignes électriques comme une trace visible de l'invisible. Je suis au cœur du paradoxe. Appareil l'énergie développée par l'homme pour remplir dérisoire l'intensité de la nature. Abobert les hallucinations auditives par le casque qui brouille ma perception de l'espace. Dans ce lieu, c'est presque comme avoir mangé un champignon. Une peur autre que physique. Des images presque normales. La zone qui devient une réserve écologique. Je suis au cœur du paradoxe. La scène du pain aux silures, la vie qui continue est plus fictionnelle que la fiction. Les checkpoints et les dosimètres dignes de planètes interdites. L'intensité de l'écoute appuyée par l'envie de sentir ce qui cloche ici. La sensation d'être en rapport direct avec les choses. La présence réconfortante des enfants le soir à la maison.
Demain, à 11h, rendez-vous pour Poésie et ainsi de suite par Manou Farine avec Frédéric Boyer, écrivain. La semaine prochaine, dans Création en air, mercredi, Arménia par Alain de Valpeau et Christine Digère. Jeudi, Bonjour voisine par Delphine Salquin et Marie-Laure Ciboulet. Et maintenant, Philippe Garbi pour les Nuits de France Culture.